Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on est ensemble jusqu'à midi. On est avec Simon Dutin, avec David Douillet, avec Marc Madio. On va reparler du Tour de France, on va parler des Bleus dans un instant, de Formule 1 également. Tiens, on n'a pas parlé de Fort Boyard jusqu'à maintenant. Enfin, je vous dis ça parce qu'on avait une grande gueule qui a participé hier. C'est Alizé Cornet qui était dans le fort. Bon, je ne veux pas spoiler pour ceux qui veulent le regarder en replay, mais regardez-le. Regardez-le.
Qui fait ça
De quoi?
Qui fait ça?
Fort Boyard.
Tu regardes Fort Boyard en replay?
Il y a des gens qui regardent Fort Boyard en replay. Je ne vais pas, non, je vais pas dire. Je vais pas leur dire s'ils ont trouvé le mot au moment où Félindra, peut-être le tigre, a été. T'as pas fait Fort Boyard, toi, David Douillet?
Ouais, j'ai fait, ouais.
Tu l'as fait? T'as dû faire.
Ouais, je me suis éclaté.
Tu t'es éclaté, t'avais trouvé le mot à la fin ou...
Ouais, ouais, on avait tout trouvé, mais j'avais surtout une bande de potes. On était des potes de l'équipe de France du judo, ouais. Dont un qui avait la phobie de tous les animaux, les arachnides, ah, ouais, etc., etc. Et je le choisis spécialement pour cette épreuve. Écoute,
le meilleur
on
pote.
S'est pissé dessus tous, mais je te jure. Mais... Et, il est, et le gars, et mon pote, est passé dans les zappings de fin d'année pendant 10 ans.
C'est monstrueux. Ça, c'est un ami. Mais toi, t'as pas. Toi, ah ouais. Je t'imagine pas, toi, je t'imagine prendre une migale. Ouais, mais c'est quoi, c'est une migale? Et alors, il y a
non, non, mais moi, j'ai... Mais, ouais. Mais c'était trop bon, quoi. C'était ouais. Excellent.
Marco, non, t'as joué, je fais. Je te vois pas là-dedans en même temps. Non, non. Oh, écoutez, donnez-moi l'indice, arrêtez avec vos énigmes, Perforas.
Moi, ce sont de clés.
Ouais, c'est ça. Donnez-moi les clés et allons-y, quoi. Bon, évidemment, Alizé, regardez, ça vaut le détour. On l'embrasse, évidemment. Dans un instant, on va parler de Montmartre. On va repasser sur la butte, hein, aujourd'hui, pour la deuxième année consécutive sur le Tour. Est-ce que c'est devenu un classique inamovible de la Grande Boucle pour vous? Dans la première heure, à retrouver en podcast, on a parlé de Pogacar. Est-il trop écrasant avec l'équipe de l'Intégral Tour qui est dans le train aujourd'hui et nous écoute peut-être en rejoignant la capitale. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, un magnifique cadeau, un séjour dans l'un des 400 campings Homer, des campings 4 à 5 étoiles situés en France ou en Europe. Voyagez selon vos envies de 2 nuits à 1 semaine jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. Pour remporter votre séjour Homer, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 7 32 16, sport au 7 32 16. Mais d'abord, donc, c'est le ring des grandes gueules du sport, J-2 avant l'arrivée d'une nouvelle légende, la légende peut-être, sur le banc de l'équipe de France.
RMC, le ring des GG.
Et si je vous disais que la plupart d'entre nous sommes des idolâtres sans même le savoir?
D'abord la jambe gauche, toujours chaussettes, chaussures.
Premièrement, il y a l'idolâtrie explicite la plus évidente, le culte rendu à des représentations considérées comme divines.
Moi, je voulais vous dire zizou, je vous aime, j'aimerais vous faire un bisou, juste sur la bouche.
L'idolâtrie est donc l'adoration d'une image. Comment l'enfer et le paradis peuvent-ils eux-mêmes devenir des idoles?
Qu'est-ce qu'il a fait ton père à 5 ans? Il est reparti à pied. Rentre chez toi.
Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça.
Pourquoi on se réinflige ça, en fait? Le passage Zinedine de 2006. On y est, les amis, on y est. Dans 2 jours, Zizou va revenir dans notre quotidien, dans votre quotidien, en enfilant officiellement le costume de sélectionneur de l'équipe de France après 14 années de Didier Deschamps. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre avec l'homme qui a fait briller les Bleus comme joueur, champion du monde 98, d'Europe en 2000 et une finale, bah oui, plus triste, on l'a entendu, en 2006 au Mondial, au bout de ses 108 sélections. Zizou n'a plus entraîné depuis 2021 au Real, où il a décroché 3 Ligues des Champions. Les GG, je vous pose cette question. J-2 avant Zidane, mais est-il forcément l'homme idéal? Oui ou non, Simon?
Tu mets le doute avec ton forcément.
Eh oui, mais c'est pour ça.
Il n'est pas forcément.
Et voilà, donc plutôt non. Marc, plutôt oui.
Plutôt oui, oui. Forcément oui.
David, plutôt oui.
Non, pas plutôt, totalement oui.
Totalement oui, l'homme idéal, ouais, sur le compte XDGG, exactement, du sport. Vous votez depuis ce matin et vous dites pour l'instant oui à 55%, il est l'homme idéal, forcément pour vous, mais c'est quand même serré, hein, vous l'avez remarqué. On vous attend au 3216 et vos messages sur WhatsApp au 06 12 424 424, je vais les lire dans un instant. une connaissance des grandes gueules du sport, une voix des GG historiques, François Pinet, qui est notre rédacteur en chef football sur RMC, nous rejoint. Salut, rédacteur en chef.
J'aime bien quand tu me présentes comme ça. Salut, Georges. Salut,
les GG. Salut, les statuts, c'est important, c'est que c'est. Marc, on l'appelle président maintenant à chaque fois. Quand même, c'est quelque chose.
J'ai encore un peu en dessous, là.
François, qu'est-ce qu'on sait des détails de l'arrivée de Zidane? Comment ça va se passer? Il vient avec qui dans son staff? On peut dire quoi?
Alors, d'abord, précision importante, hein, tout le monde parle de Zidane, mais dans le communiqué de la FFF, on parle du nouveau sélectionneur des Bleus. Hein. C'est lui qui sera présenté au siège de la FFF mardi prochain. Un suspense insoutenable. Bon, pas beaucoup de doutes, bien sûr. On verra bien Zidane s'installer au pupitre de l'auditorium de la Fédération. On annonce beaucoup, beaucoup de journalistes présents. C'est là où Didier Deschamps, pour ceux qui ont l'image en tête, avait pris l'habitude pendant 14 ans de donner la liste des joueurs sélectionnés. Il sera accompagné du président de la Fédé, Philippe Diallo, qui devrait prendre la parole pendant 2-3 minutes. Sans doute l'occasion aussi de faire un dernier adieu à Didier Deschamps et d'accueillir donc Zizou. Et ensuite, conférence de presse. La durée n'a pas été précisée, mais il y aura sans doute beaucoup de questions. Ça devrait durer autour de 30 à 40 minutes, en fonction évidemment de ce qu'a bien envie de nous dire Zinedine Zidane. On en saura plus aussi mardi, sans doute, sur la composition du staff, même si on sait qu'il travaille, et on l'a dit depuis quelques mois sur RMC Sport, depuis plusieurs mois. Il a eu Henri-Émile aussi pour essayer d'avoir des petites informations. Il sait très bien avec qui il veut aller au combat. Ça sera un staff sans doute élargi de 25 personnes, avec les fidèles Bettoni, son adjoint de toujours, avec qui il a remporté les trois Ligues des Champions avec le Real Madrid. Grégory Dupont aussi est annoncé, préparateur physique qu'il a aussi connu au Real et qui lui a été champion du monde.
Rapproché, on va dire.
Ouais, avec les Bleus en 2018. Et puis, on parle d'anciens coéquipiers de 98, Fabien Barthez, Bernard Diomède. Donc, garde rapprochée pour marquer aussi une rupture avec le staff précédent. Le contrat déjà signé serait de 4 ans jusqu'à la fin du Mondial 2030.
D'accord.
Donc, d'ici là, il commencera son aventure sur le banc des Bleus en Ligue des Nations. Ça sera en Turquie le 26 septembre prochain.
Si c'est bien Zidane, on a compris.
Pour l'instant, il y a toujours un doute. Voilà.
Merci François pour toutes ces infos. On se pose cette question, donc est-ce que Zidane est forcément l'homme idéal? Alors Simon, tu as tiqué sur le mot forcément. Tu veux pas le voir absolument comme le sauveur, peut-être attendu.
Mais parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ça va marcher. Il y a quand même un paquet d'exemples d'immenses joueurs qui n'ont pas confirmé sur le banc. Alors, de club ou de sélection, est-ce que ce sera un Franz Beckenbauer ou est-ce que ce sera un Marco van Basten?
Bon, après, voilà. Lui, il a un CV.
Écoute,
sur
on a décidé. Enfin, je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Je sais pas dans quelle histoire de quelle sélection le nouveau sélectionneur est arrivé. Plus de 1800 jours après le dernier match qu'il a dirigé sur un banc de touche. Ça fait 5 ans que Zinedine Zidane n'a pas entraîné, dirigé de match en tant qu'entraîneur. Donc voilà, c'est un mythe, c'est une légende. On a décidé que ce serait Zidane. Il a pour lui le palmarès au Real Madrid. On n'a pas le droit de mettre d'astérisque en disant qu'il avait un effectif qui à s'autogérer, qu'il était plus dans le management que dans le tableau noir de la tactique.
Tu gagnes pas trois Ligues des Champions par hasard non plus.
Et en fait, le nom de Zidane, ça fait 8 ans qu'il est sur le tapis parce que il y a des gens qui trouvent que ça suffisait pas d'aller en demi-finale ou en finale des grands tournois, que Didier Deschamps n'a gagné qu'une Coupe du Monde en 12 ans de mandat.
Bon, 14.
En 14 ans de mandat, mais en... bon. 12 ans de
compétition.
Donc voilà, moi je suis dans le train Zidane, évidemment. J'ai hâte de voir d'entendre ce qu'il va nous dire.
Mais il faut faire attention
mardi.
À l'attente.
Que tout Zidane qu'il soit, en fait, voilà, il y a un espèce de pot pourri quand on pense à Zidane. Sur alors il y a l'aura, on a envie de voir notre demi-dieu s'asseoir sur le banc, mais encore une fois, est-ce que ça va mieux jouer qu'un Deschamps qui ne proposait pas le Joga Bonito, donc même si on allait en demi ou
oui,
en
oui
finale,
c'est pas dit,
ça suffisait pas. Donc voilà,
le Real de Zidane n'était pas connu pour être une équipe flamboyante dans le jeu, voilà. Mais terriblement
et
efficace.
On a tendance à confondre le joueur immense et effectivement l'enchanteur qu'il était sur un terrain avec un entraîneur qui va quand même devoir d'abord avoir des résultats et gérer une nouvelle génération, mais bon, j'espère que évidemment que ça va être un franc succès.
Marc, toi tu dis l'homme idéal, forcément l'homme idéal, pourquoi? Parce que tu vois personne d'autre que lui en fait?
Bah parce qu'il n'y avait pas de possibilité de mettre quelqu'un d'autre. Depuis plusieurs saisons maintenant, on sait que Zidane à un moment ou un autre va prendre les commandes de l'équipe de France, donc Deschamps a été au bout du parcours. Quelle que soit l'issue du parcours, il était écrit que Zidane prendrait la suite. Donc on est dans une forme de logique. Est-ce que ça marchera? C'est un autre débat. Mais il est pour le moment inéluctable que ça devait être Zidane le sélectionneur.
Et pourquoi? Parce que aussi après un sélectionneur comme Deschamps,
c'était impossible pour un autre d'être le sélectionneur avant que Zidane ne passe. C'est inéluctable. Ouais. C'était écrit à l'avance que ça devait être Zidane. Et je pense que c'est la solution idéale du moment. Mmh. Je pense qu'en dans la situation présente, avec la fin de la Coupe du Monde qui a été un peu hasardeuse, il faut en convenir, il était logique et normal qu'on se tourne vers Zidane. Et on pouvait pas se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc, rentrons pleinement dans.
Non mais sinon il y aurait eu effectivement le débat de c'est quoi, on va encore attendre pour voir Zidane alors qu'il y a cette envie, on le sent, il y aurait eu mais ça s'ils n'avaient pas été lui.
Non mais je pense qu'on était arrivé au bout du truc avec Deschamps et là il fallait rentrer dans cette phase. Il faut qu'on vive la période Zidane sélectionneur.
Bien ou pas bien.
Bien ou pas bien, mais il faut qu'on la vive et on va la vivre jusqu'au mondial. Et souhaitons et espérons que tout se passe bien et qu'on ait la capacité d'aller chercher des titres avec Zinedine.
David, toi, t'es totalement convaincu que c'est le personnage idéal pour reprendre la sélection.
Oui, oui, et je m'extrais de l'évidence du personnage et je m'extrais aussi de sa légende parce que je vais essayer d'être que sur ses qualités propres. C'est un joueur d'exception, ce fut un joueur d'exception. Il a prouvé sur le terrain qu'il a gagné une Coupe du Monde, etc., etc. Enfin, là-dessus personne ne peut venir le chercher. Ensuite, il a été entraîneur. Il a trois Ligues des Champions dans son escarcelle, même si ça fait 5 ans. Mais le gars, il les a. Qui d'autre les a en France? Qui d'autre, alors des joueurs de description, on en a d'autres, mais de sa trempe, pour imposer le respect vis-à-vis de jeunes joueurs, qui de mieux que lui? Je trouve pas. Il a l'expérience de la communication, des médias, il a le cuir épais, et puis il a envie surtout. Donc, enfin, quand on met ça juste sur la table, qui d'autre? Est-ce qu'il y a un autre Zidane bis avec lequel on pourrait le mettre en balance?
Mais t'as raison sur l'envie, ça fait des années au moment où il a choisi d'être entraîneur qu'il avait laissé entendre que c'est un chemin qu'il aimerait prendre d'être sélectionneur des Bleus.
Exactement. Je vous écoute. Qui réunit toutes ces qualités-là? Personne. Personne. Et je trouve que.
Mais aujourd'hui, on peut y réfléchir, hein. Ça aurait pu être qui? Rudy Garcia, qui est sélectionneur, qui n'est plus sélectionneur de la Belgique. Non mais je sais pas.
Joueur,
Bruno Genesio avant d'arriver à l'OM.
C'est injouable.
Mais c'est ça, en fait. Ça aurait été ces garçons.
Que ce soit, c'était
Christophe Galtier, qui est au Qatar. Enfin, ça aurait pu être qui?
Mais je trouve que. Enfin, excusez-moi, les autres, je les connais pas suffisamment, mais personne ne réunit toutes ces qualités.
Mais t'as raison, hein.
Personne ne réunit toutes ces qualités.
Oui, mais c'est entendable ce que dit Simon. Hein. Attention quand même aussi à l'attente qu'on va avoir.
C'est l'heure de Zidane. On va vivre la période Zidane et je pense que ça va bien se passer parce qu'il arrive avec une telle aura et imaginons. Ouais, vous êtes joueur. Vous êtes joueur. Tu as Zidane qui va se présenter au siège de la fédération et qui va annoncer sa première sélection. Mettez-vous à la place des joueurs. On part sur un nouveau chapitre. Quand tu entends ton nom prononcé par Zidane, ça provoque forcément quelque chose tout de suite.
Je suis convoqué par Zidane. En fait, le truc, c'est que toi, t'as envie de le voir, victoire ou défaite, en fait. Envie de le voir. Il était temps de le voir.
Ça s'impose.
Ça s'entend, hein, Simon.
Non, mais gommez le nom de Zidane. Zidane.
Non, mais
faites l'exercice. Tu peux pas oublier que David Douillet, par exemple.
Oui, non. Mais moi, j'aimerais juste vous attacher juste sur ces qualités. Juste ça. C'est pas Zidane, c'est là. Juste les qualités du bonhomme et tout ce que je veux dire.
Non, il est légitime, t'as raison sur ce sujet. Il y a pas trois Ligues des Champions.
Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a personne d'autre qui lui arrive à la cheville. Donc voilà, je mets de côté le côté populaire, légende, machin, etc., aura, etc., etc. Juste ça. Il n'y a personne d'autre.
Comment tu peux mettre ça de côté? Je ne comprends pas.
François Pinet, rédacteur en chef football.
Je voulais juste rajouter que c'est vrai qu'on peut prendre des comparaisons et Simon en parlait. La comparaison qui nous vient le plus vite à l'esprit, c'est celle de Michel Platini qui n'a pas réussi. Et c'était une légende du foot quand il prend les Bleus à l'Euro 92, c'est un fiasco, mais à la différence de Michel Platini, effectivement, Zidane, lui, il a fait ses preuves. Il n'est pas du tout abîmé, et lui-même, et moi je trouve que c'est quand même assez important de le souligner, il prend quand même malgré tout un risque. Et ce risque-là, bien de sûr, revenir dans, sur la scène médiatique française, de revenir à un poste très exposé.
Ce qui est inédit même pour lui.
Et je trouve que ça fait preuve, bon, déjà de courage, mais ça, on sait qu'il en a. Mais surtout, on se dit, voilà, il a pas peur d'y aller. Et ça, c'est plutôt le côté positif où je me dis, il sait ce qu'il veut faire. Comme je le disais, il va être quand même très bien entouré. Il l'a déjà été. Donc, quand même, voilà, même si lui, il prend un risque pour son image, il sait quand même où il veut aller. Je pense.
Il prend même un risque encore plus important peut-être que quand il était joueur, parce qu'il sera plus exposé encore en étant entraîneur. Quand t'es joueur, mais t'es pas obligé de parler à la presse, il parlait peu à la presse même. Là, il devra parler
tout le
temps.
J'espère qu'il s'en fiche. Il faut, c'est normal. Quand t'es joueur, tu prends des risques. Quand t'es compétiteur, tu prends des risques. Quand t'es entraîneur, tu prends des risques. C'est le principe de la compétition que de prendre des risques. Voilà. Et ça peut très bien ne pas marcher. C'est pas grave. Le tout, c'est de mettre tout en avant pour, enfin, de mettre tout en place pour essayer que ça marche. Le fait de perdre, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Et j'espère que, je suis certain qu'il a ça en tête. Et c'est pas très grave. Et surtout, il a le cuir suffisamment épais, l'expérience des médias et de la pression médiatique et même fédérale, hein, quelquefois, pour gérer ça de main de maître. Je suis sûr qu'avec un Zizou, on va pas se retrouver comme en Afrique du Sud, par exemple.
Oui, bah voilà, là, c'est effectivement, certain. C'est un cas extraordinaire, extrême. Ouais, ouais.
Non, ça compte. Oui, oui. Tu vois, il faut avoir les épaules larges, quoi. Tu vois, c'est pas évident.
Tiens, on a Ali qui nous appelle au 32-16, fidèle auditeur des Grandes Gueules du Sport de la Loire. Salut Ali, comment ça va?
Bonjour, messieurs, comment salut, allez-vous?
Bah écoute, salut, très très bien, Ali. Et tu t'en souviens encore quand t'es venu en studio pour Anaïs ce matin et que t'es venu.
Quelques surprises.
Bon, Ali, tu nous écoutes depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que Zidane est forcément la personne idéale pour reprendre les Bleus?
Ah, mais largement, parce que premier argument, je le dis parce que j'en discute avec Amino Standard, et elle me disait elle-même, il a assez attendu pour déjà prouver son amour pour la patrie et le maillot bleu. Il a refusé je ne sais combien de propositions, il était focus sur l'équipe de France. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si Deschamps était resté après cette Coupe du Monde catastrophique, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait le même discours? On a besoin de renouveau en équipe de France.
Il est dur sur catastrophique à la Coupe du Monde avec Deschamps.
Là, je
ne
suis pas d'accord.
Avec le matos qu'il avait et avec un petit peu de recul, pour moi, c'est catastrophique. Je suis honnête avec vous.
Mais non, on a perdu face à plus fort, c'est tout. C'est la loi.
C'est la manière dont on a perdu. Mais bon, après.
Mais du coup, ça facilite le travail de Zidane, presque, qui va arriver après une Coupe du Monde qu'il n'a pas convaincu, en tout cas.
Ali, il a préféré la Coupe du Monde 90, la Coupe du Monde 94, la Coupe du Monde 2010, la Coupe du Monde 2014.
Mais Ali, t'es exigeant. Il a raison aussi, Ali. Maintenant,
catastrophique quand on va en 2000.
Mais maintenant, on est parmi les grands, donc il faut être exigeant, Ali.
Bien sûr.
Simon. Je vais dire un truc qui va t'irriter les oreilles.
C'est possible.
Mais si c'était pour aller faire ça, on aurait dû rester à la maison.
Non.
On a quand même fait trois demi-finales d'affilée de Coupe du Monde.
Non, mais c'est monstrueux.
Trois fois, une victoire et une finale.
On est au cœur du problème. De toute façon, Zinedine Zidane, il va s'asseoir sur le banc. Parce que pourquoi? Parce que Zinedine Zidane, il nous manque. Voilà. Zidane, il manque à la France. Le peuple français veut du Zinedine Zidane. On n'a jamais digéré sa sortie en finale de Coupe du Monde 2006. On veut encore du Zidane, on en veut encore. On a décidé que Zidane s'assierait sur le banc de l'équipe de France. Moi, je vous signe que s'il n'y avait pas cette espèce de tropisme médiatique et populaire qui consiste à vouloir à exiger que Zinedine Zidane soit à la tête des Bleus, je pense que Didier Deschamps, il aurait continué. Et il y a énormément de gens qui ont été mal habitués par l'excellence du travail de Didier Deschamps, par le côté compétiteur de Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays n'a plus la mémoire. Je disais Coupe du Monde 90 et 94 avec beaucoup d'ironie parce qu'on n'y était pas, parce qu'on ne s'était pas qualifié, même si c'était les conditions étaient.
Oui, mais après, tu as le droit aussi de changer ton logiciel, Simon. Tu as le droit aujourd'hui, après le fait qu'on ait eu deux étoiles sur le maillot, désormais, on est beaucoup plus exigeant qu'en 94, en 90.
L'Allemagne a combien d'étoiles?
Les Italiens, ça fait trois
Coupes du Monde. Les deux dernières Coupes du Monde, ils sont passés à travers.
Bien sûr.
une grande nation de foot, l'Allemagne. Mais soyons objectifs et réalistes.
Mais c'est un débat. Et Ali, moi,
cette période avec Deschamps.
Non, mais bien sûr qu'on va avoir. Mais c'est pas ce qu'a dit Ali. Ali, il a pas dit que la parole était mauvaise. Il a dit que la dernière Coupe du Monde n'a pas convaincu. Non, mais chacun. Tous les avis sont recevables dans les grandes gueules du sport, et on peut être exigeant ou au contraire effectivement être un peu plus, on va dire, réservé en se rappelant de l'histoire. Donc ça c'est pour Zinedine Zidane qui va arriver mardi sur le banc de l'équipe de France. Tiens, j'ai d'autres noms qui arrivent. Pascal par exemple sur WhatsApp me dit Thierry Henry. Alors il aurait pas pu reprendre l'équipe de France. Peut-être, c'est vrai que ça aurait été un profil aussi ça. Franchement, François.
Après Thierry Henry sur les bancs des clubs sur lesquels il est passé, il y a eu aussi quelques couacs. Hein, on se souvient de Monaco. Donc voilà, certes il a cette petite lumière avec les Jeux Olympiques et l'équipe de France. C'est vrai que c'est un
nom. Il a l'argent.
Mais bon, il est plus clivant, Thierry Henry. Hein. C'est un personnage plus clivant. Donc,
est-ce qu'il a envie?
Ben peut-être pas, parce que je trouve excellent consultant. Donc je pense un peu comme Marc Madio. Voilà.
Ça veut dire quoi, tu l'aimes pas comme manager?
Je trouve très bon consultant, c'est tout ce que je dis.
Moi, c'est ce que j'ai dit. Allez, résultats du sondage, les amis, sur le ring des grandes gueules du sport. À deux jours de la nomination. A priori, de Zidane. Et François, il m'a mis le doute.
Ah, tout dans le communiqué, c'est nouveau sélectionneur des Bleus. Il y a encore les suspects jusqu'à mardi 11h.
Zidane est-il forcément l'homme idéal pour l'équipe de France? Vous dites, comme Marc Madio, comme David Douillet, oui à 57%. Donc, vous avez été plutôt convaincu par les arguments. Mais bon, c'est quand même pas pour alors que la personnalité de Zidane est plutôt de tendance à nous rassembler. C'est pas une victoire limpide non plus. François, merci beaucoup.
Merci à vous.
On découvrira peut-être le nouveau sélectionneur mardi.
J'y serai. Voilà. Moi, ça va être un moment quand même assez fort, je pense. Hein, quand il va entrer dans la salle avec cette lumière autour de lui, quand il va peut-être descendre du ciel, je ne sais pas comment il va arriver.
Alors, d'ailleurs, ça sera encore plus fort quand il gagnera la troisième étoile.
Ah bah oui.
D'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai appris un truc. David, tu peux nous dire ce que tu as fait avec Zinedine Zidane? Qu'est-ce que tu lui as donné il y a quelques années?
Je lui ai apporté le ballon d'or.
Ah, c'était toi? C'était David qui avait apporté le ballon d'or à Zidane en Italie.
Magnifique.
Ouais, en Italie, ouais.
T'es quelqu'un quand même.
C'est un super moment. Ouais. Non, bah.
Ah, c'est vrai. Oh, bah, c'est vrai, j'avais fait deux, trois trucs à l'époque.
Et pour la petite histoire, j'étais avec mes enfants qui étaient jeunes, mes deux petits. Et quand ils l'ont vu, ils sont cachés sous la table. Ils ne voulaient pas le regarder.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais. Et lui, il s'est mis à quatre pattes pour aller les chercher. C'était drôle. Ouais,
attendez, je suis sympa.
Ouais, mais c'est ça. C'était complètement dingue.
C'était une imitation de Zinedine Zidane. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, en tout cas, l'anecdote est importante. Merci François. Évidemment, on continue de parler de Zidane. Peut-être qu'on te retrouvera tout à l'heure, d'ailleurs. Je ne sais pas. On va voir. Allez, on revient dans un instant. On va parler de vélo. Tiens, on va parler de la butte Montmartre. Ça vous plaît ou pas? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, la Formule 1. Alors là, j'ai deux grands fans de Formule 1 avec Marc Madieu et David Douillet. Vous êtes déjà monté dans une Formule 1?
Non.
Marc? Mais en même temps, c'est pas ça. David, il y a une Formule 1, il y a un baquet à ta taille?
Ah, je l'attendais, celle-là.
Ah, bah oui, sinon, je l'aurais fait.
Ah, bah voilà.
Bah non, mais. Donc, non.
T'es déjà monté sur un tatami, Jean?
Oui, mais je ne veux pas le faire avec toi. Je vais t'envoyer Fred Weiss plutôt, parce que j'ai envie de voir ça. Fred non plus n'a jamais rentré dans une Formule 1. Ça, il n'y a pas de souci.
Et pour la petite histoire, tu sais, on parlait de Zizou.
Ouais.
Je me souviens qu'à l'époque, il m'avait avoué qu'il avait fait du judo, Zizou.
Allez, c'est vrai?
Ouais, je te promets. Il a fait du judo et il adorait ça parce que c'était un défouloir pour lui.
Et en même temps, je l'imagine bien. Du coup, t'as testé son kumikata?
Non, bah, on a testé du tout, t'es fou quoi.
Ouais, t'aurais pu.
C'est un bon moment. Ouais. Et c'était le 11 d'or. Le 11 d'or.
Ah, le 11 d'or, bien sûr, c'était le 11 mondial. Rédacteur en chef à l'époque, Jean-Michel Larquet, de 11 mondial. Alors, quel magazine qui existe toujours, hein. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose. Allez, dans un instant, on va parler Formule 1. Donc, je vous le disais, Grand Prix de Hongrie à 15h. Est-ce que Hadjar, qui va partir 8e, est désormais installé chez Red Bull? C'est Norris qui a signé la pole. Jean-Luc Roy sera avec nous. Tout de suite, j'y crois, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
Alors j'y crois pas. Aujourd'hui, on va parler de la dernière étape du Tour de France, arrivée sur les Champs-Élysées. On va passer par trois fois par la butte Montmartre, qui, je vous rappelle, s'est installée après les Jeux de Paris, qui avait vu le sacre de Remco Evenepoel, magnifique, hein, à l'époque. Et je crois qu'il y avait un coureur de l'équipe FDJ qui avait fait une médaille. Je crois que c'était Valentin Madouas.
Exact.
C'est ça. J'essaie de voir si tu t'en souviens. L'année dernière, c'était une première sur le Tour sous la pluie. C'était dantesque avec la victoire du coureur absolu Wout van Aert devant Pogacar, et c'est peut-être parti pour durer. Donc aujourd'hui on va passer trois fois dessus, et c'est un objectif pour Pogacar. Tiens, la question que je vous pose, c'est j'y crois pas, est-ce que Montmartre est devenu un classique qui est désormais inamovible du Tour de France? Simon,
j'y crois.
David?
Ouais, j'y crois aussi.
Marc?
J'ai envie de dire non, et je vais dire pourquoi.
Allez, t'as envie de dire non. Tu l'as un peu dit tout à l'heure en introduction, mais on va développer le sujet. T'es pas forcément fan de cette installation, peut-être, de Montmartre, toi?
Alors, je suis fan de Montmartre. Je suis fan d'une course à Montmartre, mais Montmartre n'a pas besoin du Tour. Et j'ai envie de dire, le truc absolu, ce serait qu'ASO puisse organiser un Grand Prix de Paris à Montmartre. Un one shot, une journée, à un moment de la saison, et on pourrait en faire un gros moment de cyclisme hors Tour de France.
Une classique parisienne.
Ouais.
Un monument parisien.
Un monument parisien.
C'est pas bête, ça.
Et dissocier un peu du Tour. Parce qu'en fait, s'il y a de la pluie, on va neutraliser les temps. On mélange un peu deux genres. Un endroit exceptionnel avec une course qu'il faut bien terminer et qu'on peut pas galvauder sur le simple passage d'une butte de Montmartre. Mmh. Donc je trouve qu'il y a un truc qui n'est pas totalement accompli. Moi je prêche pour un Grand Prix de Paris à l'image de ce qu'a été l'épreuve olympique, et un Tour de France plus traditionnel, où il y a, comme je le disais en préambule, cette communion et cette osmose entre le peloton et le public.
Marc Madieu va voir une classique parisienne, la classique Montmartre. Ah, j'avoue que ce serait quand même incroyable. Ouais, juste, on a interrogé hier, c'est Antoine Bras, reporter à RMC, qui est allé à Montmartre. Il a parlé avec les spectateurs, les habitants, sur ce que ça représente pour eux maintenant.
C'est des ouf, c'est des malades de faire ça. Je crois qu'il y a 800 mètres, mais ça fait que grimper et ça ne s'arrête pas. C'est pas roulable, c'est des pavés, c'est horrible.
J'étais venu repérer cet hiver, j'étais en voyage à Paris, donc j'étais venu voir la rue Le Pic. J'avais trouvé ça incroyable, et là je me suis dit, faut booker des billets de train pour aller les voir à Paris. J'avais vu la ferveur populaire que c'était l'année dernière, donc ça m'a vraiment donné envie.
Je trouve ça super de passer par là, parce que c'est Paris, quoi. Ça représente vraiment Paris. Pour le monde entier, les touristes, le fait de passer là, ça rajoute la petite étincelle en fait qui manquait.
Ben, je vais travailler, et puis écouter, entendre, et puis croque monsieur à volonté, et puis voilà, c'est le Tour de France, c'est festif.
Ah ben, c'est sûr que les commerçants, ils se régalent, hein. Montmartre. J'ai bien aimé le premier spectateur qui dit, mais on peut pas rouler là-dessus, t'imagines, Paris-Roubaix, c'est quand même pas la même chose. David, toi, t'es fan de Montmartre, tu veux que ça reste
Je suis fan des images, je suis fan de la population, je suis fan de l'engouement, je suis fan de ce que j'avais vu au jeu, quoi. Donc je garde ça en tête, et je trouve que Montmartre, c'est un très beau symbole de Paris. C'est le Paris populaire, c'est le Paris un peu titi parisien, Gavroche, tout ça. Enfin, tu vois, c'est
touristique, voilà, aussi.
touristique, ouais. Non, oui, évidemment, mais je trouve. Et puis en plus cette petite pente là qui fait mal aux pattes.
Et c'est quoi, tu t'ennuies avec les sprinteurs avant, avec la procession à Paris?
C'était un peu convenu, quoi. Voilà, c'est les tours s'enchaînaient, puis il y avait le sprint final.
Ah, voilà, c'est sûr, comme spectacle télévisuel, il n'y a pas d'équivalent, en fait. Le chrono, évidemment, perdu par Laurent Fignon, mais si le classement général a de gros écarts, le contre-la-montre, il sert à rien. Simon, toi, sur Montmartre.
Ah ouais, mais je ne veux pas qu'on touche, je ne veux plus qu'on touche à cette dernière étape, parce qu'il faut se souvenir, en effet, tu sais, on bossait ensemble, toi et moi, pour les Jeux Olympiques, là, sur la radio, dédié chez nous. J'ai vécu des émotions à travers l'écran de la télévision que je ne pensais jamais vivre pour une course en ligne des Jeux Olympiques. Et j'ai eu la chance l'an dernier, moi, d'assister à la première sur le Tour. Il y a en effet cette espèce d'atmosphère que tu ne peux pas recréer. Là où je suis pas d'accord avec Marc, c'est que je pense que si tu crées un Grand Prix de Paris, une sorte de classique sur le même parcours avec le même modèle,
tu n'arriverais pas à attirer autant de monde. Moi, ce que j'ai vécu l'an dernier, voir la rue Le Pic se remplir comme ça. En effet, je recommande aux gens qui le peuvent de réserver un petit coin sur une terrasse d'un restaurant parce que, en effet, au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Mais sentir cette attente qui monte. Et puis, tu sais, la rue Le Pic, elle tourne énormément. Donc, tu ne vois pas ce qui se passe. T'entends la rumeur. Tu sens que les coureurs approchent. J'en ai les frissons à en parler. Tu vois les motos de la gendarmerie qui passent. Tu dis, ils arrivent. Ils passent à une vitesse absolument incroyable parce que c'est pas possible de rouler en vélo sur des pavés et se déniveler. Moi, je fais un petit peu de marche en côte. Hein, c'est mon quartier, je me promène. Même marcher, c'est compliqué.
Non, mais c'est un classique qui s'est installé pour toi.
Et je pense que la mythologie, la magie, la féerie du Tour de France joue quand même à plein dans le succès populaire de cette étape.
Il y a un côté, en fait, les survivants qui se mettent une dernière peigne, en fait. Exactement. Ce qu'on a vu l'année dernière avec Van Aert.
Et pour terminer, par rapport au spectacle, je suis pas un professionnel du cyclisme comme Marc, donc j'ai pas les mêmes arguments, mais moi j'ai le seul souvenir que j'ai. C'est moi, gamin, avec Eddy Seigneur qui bat le peloton sur les Champs-Élysées. Bon, et tous les ans, j'attends qu'un mec nous refasse ça. Peut-être que ça a été refait une fois, mais c'est devenu tellement... Il y a tellement d'enjeux pour les sprinteurs.
Ah, mais il y avait un côté sprint royal aussi qui était quand même sympa.
Mais justement,
c'était l'All-Star Game, quoi.
Et la récompense, en effet, oui, mais bon.
Peut-être alterner, pas tous les ans. Tiens, on a Antoine qui nous appelle 10h au 32-16. Salut Antoine.
Bonjour à tous.
Bon, est-ce que toi, tu t'intéresses plus à l'étape du dimanche maintenant que le Montmartre est là? Est-ce que tu veux que ça s'installe?
Ah bah absolument. Je pense que je suis mille fois d'accord avec David Douillet. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu à Paris 2024, cette ferveur qu'on va retrouver là pour la deuxième année consécutive, c'était déjà le cas l'année dernière, je pense qu'il faut absolument garder ça. Et on ne l'aura que parce que ça termine le Tour de France dans un côté clin d'œil au public. C'est un peu une récompense de finir comme ça. Et on l'aura jamais dans une classique qui serait dédiée, parce que ce serait une fois. Je pense pas qu'on retrouve cette ferveur là. Donc à mon avis, il faut pas y toucher parce que il y a un côté mythique, il y a des pavés, enfin c'est très particulier et c'est vraiment c'est vraiment une récompense. Ça choque personne de d'avoir mis l'Alpe d'Huez deux fois au parcours cette année, et maintenant il faudrait faire une étape plus traditionnelle parce que les coureurs sont fatigués. Sur la dernière étape, j'ai un peu de mal avec ça, honnêtement.
Non, c'est pas forcément que les coureurs sont fatigués. Marc, toi, t'es plus sur le côté, c'est peut-être une certaine tradition aussi à garder.
Une certaine tradition et ne pas se retrouver dans des situations où on neutralise pour les temps, qu'il n'y ait plus qu'une quinzaine ou une vingtaine de coureurs qui ont vraiment
fait. Oui, on rappelle l'année dernière, le classement général avait été neutralisé parce qu'il pleuvait.
C'est un peu ça, moi, qui me perturbe.
Mais
bon, je peux entendre et je comprends l'excitation par rapport à cette étape. Moi, je pense qu'il y avait de la place pour les deux, pour faire une grande classique dans Paris, en plus de la...
Et Montmartre de temps en temps,
voilà. Et Marc, j'ai quand même un point à rajouter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va rajouter du suspense parce que l'étape est plus courte aussi.
Oui, il n'y a que 89 km aujourd'hui, ça sera que à Paris. Mais aujourd'hui, il faut la butte est plus loin de l'arrivée.
En permanence, on se place du côté du spectacle, on va rajouter du spectacle et tout. À un moment où il y a quand même un petit moment.
Ah ben c'est la société dans laquelle on vit aussi.
On pourrait penser aux coureurs. Les coureurs, on les a mis dans un TGV hier soir pour remonter à Paris. Ils ont fait une étape dantesque hier. Ils ont donné pendant 3 semaines. Le côté l'étape des champs appartient aux coureurs. Et c'est eux qui savourent ce qu'est le Tour de France pendant 3 semaines, la procession jusqu'à Paris, la petite coupe de champagne. Alors je sais que ça ennuie beaucoup de gens.
Et en même temps, le Tour de France,
quand tu es coureur ou quand tu as été coureur, tu sais à quoi ça correspond.
Mais Marc, alors là où je te rejoins à moitié, c'est que en même temps, le Tour de France, il nous appartient à nous tous, quoi. C'est notre patrimoine.
Il y a quand même un truc qu'il faut toujours garder en mémoire.
Ce sont les coureurs.
Toujours garder en mémoire. S'il n'y a pas de coureur,
il n'y
a pas de course.
mais compliqué.
De temps en temps, c'est pas mal de le rappeler. S'il n'y a pas de coureur, il n'y a pas de
tout le monde n'est pas fan de Montmartre. C'est important de le rappeler, mais il y en a qui adorent ça. Et tiens, juste, je voulais tendre un avis là-dessus. Aujourd'hui, ce sera à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, je crois, le dernier passage au sommet. L'année dernière, c'était à 6. Tu penses que il peut y avoir une différence? Il peut y avoir des sprinteurs qui peuvent passer.
Non, mais en fait, c'est la météo qui va déterminer ce qui va se passer.
Ouais, l'année dernière, il pleuvait.
Ouais, il pleuvait. S'il n'y a pas la pluie, il y aura plus de coureurs ensemble, a priori.
Qui gagne aujourd'hui, Marc?
Van der Poel.
Oh là là, Mathieu Van der Poel qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, qui se garde au chaud peut-être pour cette dernière étape.
Ça fait 10 jours qu'il y pense.
Non mais attends, ça veut dire quoi? Tu penses que Pogacar va être battu aujourd'hui?
Oui, je pense.
Bon, si Pogacar a été battu dans l'année par Van Aert et Van der Poel, ce sera pas infamant. Hein.
C'est
Poggi
qui va gagner.
C'est moi, ouais, je pense aussi que c'est Tadej Pogacar qui, quand il a une idée en tête, il est jamais trop loin en réalité. Hein. Donc, on va voir ça évidemment. Il va y avoir de bonnes peignes, on imagine, dans la montée de la rue Le Pic. Et Simon Dutin sera là pour encourager avec son petit café. Là.
Ben non, malheureusement.
Mais si, tu prépareras l'after depuis là-bas.
Ah oui, voilà.
Je vais préparer depuis là-bas. On t'a pas prévenu. Allez, on revient dans un instant sur RMC, on parle Formule 1. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Simon Dutin, avec David Douillet, avec Marc Madiot qui a proposé une classique parisienne avec Montmartre. Tiens, Marc, j'ai une proposition de Karl sur WhatsApp au 06 12 424 424. Déjà, il commence son message en disant Marc Madiot a raison. Ça me semble important de le signaler. Une classique qui arriverait à Paris pourrait s'appeler le Roubaix Paris. En fait, on innoverait en inversant le départ. On partirait de Roubaix, peut-être des pavés croplantes du vélodrome pour arriver à Montmartre. Ça aurait de la gueule quand même.
Ouais, mais je suis partant pour un vrai Grand Prix de Paris.
Un truc dans les rues, quoi. C'est ça. Ouais. Sinon, n'allons pas piocher à Roubaix.
Non, Roubaix, c'est Roubaix. Chacun,
c'est ça. Mais ouais, moi j'ai envie de le voir, ça, effectivement. Mais bon, on imagine évidemment l'organisation des courses et tout, les autorisations, c'est une galère pour l'organisateur pour y penser, bien sûr. Dans un instant, on va parler de Paul Sexas. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes pour son premier Tour de France? Mais d'abord, la Formule 1, Grand Prix de Hongrie avant la coupure estivale. C'est à 15h sur RMC, la McLaren du champion du monde. Lando Norris partira en pôle devant Leclerc et Piastri. Kimi Antonelli, le leader du championnat, s'élancera à la 4e place sur la grille. Notre Français Isaac Hadjar partira 8e. Punchline du Français après les qualifications hier au micro du diffuseur.
RMC, la punchline GG.
Bon, le rythme il est pourri depuis hier et on va pas vraiment progresser. Bon, ça me saoule, la dernière tentative. Finalement, je fais mon meilleur temps sur les pneus usés. La dernière tentative en pneus neufs. Je sais pas ce qu'ils font dans les stands. Je sors de mon pit parmi les premiers. Et au lieu de suivre Max, il y a 5 voitures qui passent devant moi. L'outlap il est pourri. J'ai pas de température. Donc. Ça me saoule un peu des trucs qu'on est censé contrôler. On le fait mal. Bah voilà. C'est sûr que 8e, oui, on va le faire facilement. Mais on s'en fout de finir 8e. Donc bon, c'est dommage.
Je voulais qu'on l'entende parce qu'on l'a peu entendu, Isaac Hadjar, depuis le début de la saison. Et c'est important de voir comment il parle et sa haine de la défaite, elle est importante à signaler. Hadjar, 8e au classement des pilotes au championnat pour l'instant, 31 points derrière son coéquipier Max Verstappen, c'est pas beaucoup. 7e, sur les 6 dernières courses, il a à chaque fois terminé dans le top 6, même en Belgique le 8e dernier, en partant de la 21e place. Les GG, je vous pose cette question. Est-ce que Hadjar est désormais installé chez Red Bull? Marc?
Oui.
David?
Oui.
Simon?
Oui.
Ah, ça fait l'unanimité alors qu'en début de saison, c'était pas gagné quand même. Vous participez au 32-16. La voix de la F1 sur RMC nous rejoint. C'est Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut David, salut Marc et salut Simon.
Qui va nous faire vivre la course tout à l'heure. Tiens, rapidement, David, pourquoi il est installé pour toi? C'était pas gagné, hein, on le disait, hein, pour Hadjar, hein, dans ce bac et maudit.
Ben, il est installé par rapport à tous ceux qui l'ont succédé et qui n'arrivaient pas à être dans l'inspiration de Verstappen. C'est tout. Le Tsunoda était à l'ouest, Perez était à l'ouest, Ricardo était à l'ouest. Ils ont tous été à l'ouest, sauf lui. Alors, est-ce que
l'arrivée de Laurent Mekies... Perez, il avait aidé quand même à Verstappen l'année où il est champion du monde. Mais c'est vrai qu'après cette année,
Ricardo, il a fini devant Verstappen en 2016, hein, je crois.
Ils
sont plus là et on sait, voilà, et s'il était pas aux fraises, il serait encore là, voilà, ils sont plus là, c'est tout cela. Parce qu'ils ont pas tenu le baquet, quoi. Et aujourd'hui, le seul qui tient le baquet et qui est régulier, qui est là, qui fait avancer ses bagnoles, qui avait la réputation d'être inconduisible et conduisible que par Verstappen, eh bien, c'est Hadjar, voilà.
Il te plaît son discours?
Son caractère.
Quand tu l'entends, son caractère?
Ah mais j'adore. C'est un mauvais joueur. Il râle. Il est pas content, etc. Mais c'est génial. Il a le profil pour être un grand pilote de F1 et il le sera.
Il est accrocheur, hein,
Marco.
Ah, il est accrocheur.
Ah oui, il est jamais satisfait.
Il veut cogner Verstappen. Et alors, c'est pas encore complètement le cas, mais je pense qu'il peut. Il peut se rapprocher encore.
J'adore.
Il est vraiment en contact. C'est celui qui est le plus près de tous ceux qui ont précédé. Dans la voiture.
Jean-Luc, est-ce que tu es bluffé? Parce que c'est vrai que depuis en tout début de saison, on pouvait se poser des questions, ça n'avait pas forcément très bien commencé. Mais ce que montre Hadjar, là, comment on peut le définir?
Bah, c'est excellent. Écoute, c'est vraiment excellent. On est tout proche de l'exploit. Je pense qu'il a encore, puisque la question c'est de savoir si effectivement il a assuré son baquet. Je pense que paradoxalement, il a fait beaucoup pour l'assurer. D'une part, avec le sacrifice qu'il a fait d'aider Verstappen à réaliser un excellent chrono lors du dernier Grand Prix à Spa, vous en souvenez, en qualif. Comme lui, il était affecté effectivement par une pénalité. Il savait qu'il partirait de toute manière de très très loin, c'est-à-dire dernier. Et après, on allait voir ce que ça allait donner. Il a de lui-même, bon, on l'a aussi conseillé, mais c'est normal, c'est le jeu. Il a aidé Verstappen, notamment dans le dernier secteur, à réaliser un excellent chrono. Il le fait gagner entre 2 et 3 dixièmes, selon les estimations, et selon les propres mots de Verstappen, ce qui est rare, qui parle de son équipier, en disant « Je le remercie, il s'est sacrifié, ça a permis à Verstappen de très bien partir. » Quant à Hadjar, bah après, en course, partir dernier. Alors bon, on avait l'exemple, là aussi, il faut jamais comparer dans le temps, parce que ça n'est pas la même course, ni la même voiture. Mais Verstappen, qui était parti 14e, avait remporté le Grand Prix de Belgique. Là, Hadjar part 21e, il termine 6e. C'est tout à fait comparable en termes de remontée. Alors, bien sûr qu'il y a la bande des 8, hein, vous me voyez venir, c'est-à-dire la bande des 4, les 4 écuries de pointe, évidemment. Donc, c'est ce que fait Isaac. Il est systématiquement dans la bande des 8, on va dire des 8 pilotes, et là, plutôt mieux. Donc, il a fait un Grand Prix absolument remarquable, et je pense que c'est presque ce qu'il a fait de mieux depuis le début de la saison, et c'est ainsi d'ailleurs que Laurent Méquès l'a qualifié, hein. Il a dit là, ça c'est du super boulot, en plus il a démontré qu'il avait l'esprit d'équipe, qu'il était prêt à se sacrifier, et puis comme effectivement vous l'avez souligné, il est très proche de Max, ce qui n'est pas rien. Que la voiture soit au bon niveau, comme ça a été le cas les 2-3 derniers Grands Prix, on vient d'en parler, et puis même en début de saison où elle ne l'était pas, bah il n'était pas trop loin. Moi j'avais situé la barre, c'est ce qu'on dit d'habitude, à 3-4 dixièmes, il est dedans, il n'y a aucun problème. Et là c'est pareil, il fait le boulot, là il n'est pas content, bah c'est normal, hein. Alors bon, après c'est son style effectivement.
On aime ou on n'aime pas ça pour le coup, hein, c'est...
Non, mais c'est, peu importe, ce qui compte c'est ce qu'il a dans la tête, et là il n'est pas content de partir où il part, de partir huitième sur la grille, et il a raison. Alors, il y a eu deux pénalités qui vont tomber devant lui, ça va pas lui servir à grand chose, parce que bah, Lewis qui avait le deuxième temps, qui prend un pion, parce qu'il a gêné Piastri, hein, vous l'avez vu, juste à la fin, bon, il y avait rien à dire, il prend trois places, il part cinquième, et Antonelli, qui était moyennement qualifié quatrième, il part sept, donc ils sont juste devant. Bah, j'allais dire, il y a un super wagon à accrocher là devant.
Il y a des choses à montrer, en fait. Il y a des choses à montrer parce qu'il aura sur sa route Antonelli et Hamilton. David.
Oui.
Jean-Luc, si Horner était toujours à la tête de Red Bull, est-ce que.
On rappelle que Christian Horner, l'ancien patron, a été remplacé par le français Laurent Méquies, dont tu as parlé il y a quelques instants, Jean-Luc.
Oui. Alors, écoute, c'est évident que la présence de Laurent, depuis un an pile, hein, c'était après Silverstone, va dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que c'était déjà son patron lorsqu'il était chez Racing Bull la saison dernière. Donc il l'avait vu, où c'était la saison de rookie d'Isaac qui a eu quelques faux pas, mais pas beaucoup. Là, le seul qu'il ait eu, c'est Miami, hein. Vous vous en rappelez aussi. Miami, où, bon, il part pas bien. Pareil, il est disqualifié pour une histoire de fond plat. Là, il y est pour rien. Il part de loin. Et puis, là, il fait, c'est normal, hein. Bah, à 21 ans, c'est comme ça que ça se passe. Il remonte tout le monde au début. Il dit, ah, c'est formidable. Bah oui, jusqu'à ce qu'il se mette dans le mur, évidemment, au sixième tour. Bon, c'est la seule erreur qu'on peut lui accorder, cette saison. Ça fait pas beaucoup, hein, 11 Grands Prix, hein. Donc, pour répondre à ta question, je pense que la présence de Laurent Méquies, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, faut quand même rappeler que tout le monde était d'accord pour qu'il vienne là, hein, parce que effectivement, il était dans la filière depuis des années, on le surveillait, on l'avait décelé. Alors, le seul problème qu'il va avoir à gérer, c'est qu'il y a un certain Arvid Lindblad, dont vous avez bien entendu parler. Bah, moi, j'en parle beaucoup, parce qu'il a énormément de talent. Il n'a que 18 ans. Lui, il est rookie, hein. Et tenez-vous bien, il part 9e, là, juste derrière lui, avec, pour schématiser, la voiture qu'Isaac avait l'an dernier, c'est-à-dire la Racing Bull.
L'écurie, on rappelle, qui est dans la galaxie, Red Bull. Donc, effectivement.
Exactement. Qui est l'écurie d'où arrive Isaac. Alors, c'est vrai que lui est là. Après, si on va un peu plus loin, il y a Nicolas Tsoloff, qui est en F2, là, ça fait encore, mais qui est en train d'azimuter, d'atomiser, bing, c'est dans le Nourin, d'atomiser la Formule 2.
Oui, tu veux dire, il a quand même même du monde qui pousse derrière. Il faut quand même faire attention dans le côté.
C'est ça, il faut être prudent.
Installation. Bah, de toute façon, en Formule 1, c'est comme ça. Toi, Adjar, tu le vois installer, Simon.
Oui, bah, David a rappelé qu'il y a quand même beaucoup, il y a eu beaucoup d'essais à côté de Verstappen. Et hormis Ricciardo, et à une époque, c'était il y a 10 ans, à une époque où la situation n'était pas tout à fait la même chez Red Bull, personne n'a réussi à tenir la dragée.
En fait, est-ce qu'on en a suffisamment vu? C'est la question.
J'allais te dire, voilà, c'est une demi-saison prometteuse. Il a quand même battu trois fois sur 10 Verstappen en qualif. On rappelle qu'en effet, même quand ça se passe pas aussi bien que ce qu'il aimerait, parce qu'il a des exigences très élevées pour lui-même, et ça va avec la confiance en lui qu'il affiche. Et moi, personnellement, qui me plaît, il est dans la galaxie de nos sportifs français, prodiges, Wembanyama, bon, Mbappé qui a été le précurseur, Paul Sexas, tout ce que tu veux. Voilà, ils sont programmés pour le succès. Il l'assume, il arrive. Quand il n'est pas satisfait de ses performances, il n'y a pas de langue de bois. Et en effet, je pense que ça doit plaire au patron, à Verstappen, déjà, d'avoir un jeune comme ça. Je suis pas loin de penser qu'il survivra peut-être même à Verstappen dans cette équipe Red Bull. Et je pense que on doit s'en féliciter quant à les Tsunoda, Lawson et autres machins. Je pense que Perez avait ce qu'il fallait aussi à l'époque.
Oui, il avait aussi de bons soutiens financiers, Sergio Perez.
Oui, mais je trouve qu'il avait été pas mal à ses débuts. Et ils ont été un peu injustes avec lui, mais Adjar, pour moi,
Jean-Luc, il part 8e Adjar avant la course, avant les qualifs. Il avait dit, si je peux partir à Trévestival avec un podium, je signerai. Est-ce que c'est atteignable aujourd'hui ou c'est trop compliqué?
Ah, écoute, il faudra quelques circonstances. On rappelle que quand même sur ce Grand Prix, c'est la Cocon avait remporté la victoire en 2021.
Exactement.
Vous vous en souvenez? Bon, il y avait eu un gros ménage au premier freinage du premier tour. Je crois qu'ils avaient été 3, sinon 4 à rester sur le carreau. Ça peut arriver. Sinon, il y a tous les gros bras devant, hein. Comme on l'a dit, il est le huitième. Derrière, c'est vraiment que du très très lourd. Donc, s'il n'y a pas de dégâts, s'il n'y a pas d'élimination, c'est un tracé où il est assez difficile de dépasser. Il va falloir être extrêmement opportuniste. Le podium, honnêtement, j'y crois pas trop. Maintenant, top 6, top 5, oui, c'est possible. Il y en a toujours un ou deux qui auront des problèmes. Si lui n'en a pas, c'est jouable.
Il partira 8e sur la grille, sur le circuit, sur le tracé du Hungaroring. Donc, départ.
Le tourniquet hongrois.
À 15h, le tourniquet hongrois, comme tu aimes bien l'appeler, effectivement, Jean-Luc. Oui. On te retrouvera évidemment sur RMC tout à l'heure. Donc, c'est Lando Norris, un champion du monde, qui a signé la pole. On te retrouve sur RMC évidemment dans un instant. Nous, dans les grandes gueules du sport, on va longuement parler de Paul Sexas. Tiens, venez au 32-16 parler avec les grandes gueules. Est-ce que Paul a répondu à vos attentes? 4e du général. Je sais qu'hier certains voulaient régler nos comptes avec nous, leur compte avec nous sur vous l'avez mis très très haut et tout. Bah oui, parlons-en parce qu'il est quand même très haut au classement général, les amis. Allez, on en revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.